avec nous au téléphone, toujours d'ailleurs en Nouvelle-Orléans. Bien le bonsoir, Audrey Leduc, et félicitations.
Allô. Merci.
Audrey, t'es toujours là-bas sur les lieux, pas du crime, mais les lieux de ton record. T'es attachée au lieu. Il y a d'autres compétitions qui s'en viennent, j'imagine, là-bas?
Oui, puis en fait, pour te corriger, c'est pas en Nouvelle-Orléans, c'est à Bâton-Rouge qu'on est. C'est tout près, par contre, de la Nouvelle-Orléans, par contre.
Donc, c'est bel et bien en Louisiane. J'avais pas fait d'erreur, donc, excuse.
Non, en Louisiane, okay. Mais à Bâton-Rouge.
OK, d'accord, excuse. J'ai eu des mauvaises références là-dessus, mais ça arrive, hein, comme on dit, on joue en équipe. Donc, c'est bel et bien en Louisiane, c'est ça que j'avais cru comprendre.
Oui, oui.
Et donc, on repart à zéro. Comment tu te sens maintenant que tu as fracassé ce record-là, psychologiquement, par rapport à la suite des choses?
Je me sens bien, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir recourir pour essayer de voir si je suis capable d'améliorer encore une fois ce temps-là. C'est super le fun de pouvoir être la détentrice de ce record-là, d'être une Québécoise qui le détient. C'est le fun de pouvoir faire briller le Québec sur la scène nationale, puis de montrer qu'on est capable de bien courir vite au Québec. Puis j'ai juste hâte de pouvoir continuer à courir, puis de voir ce que je suis capable de faire de mieux.
C'est surprenant, puis tu t'en rends compte de par l'intérêt médiatique à la suite de ta performance, parce que, tu sais, des sprinteurs qui ont eu du succès au Canada, puis au Québec, sur un territoire encore plus restreint, là, ils sont pas nombreux, moi, en tout cas, de mémoire. Les dernières entrevues que j'ai faites avec des sprinteurs, puis bon, c'était avec Nicolas Macrazonaris, Bruni Surette, je leur ai reparlé bien après leur carrière, mais pour te dire que, je sais pas si j'en ai échappé d'autres sur le radar, mais vous êtes pas nombreux dans le domaine de la vitesse sur 100 mètres, ou nombreuses au Canada, n'est-ce pas?
Non, on n'est pas très nombreuses, ni nombreux. Ben, nombreux, ben, il y a les garçons, là, les gars, c'est André de Grasse et tout ça, mais.
Oui.
Non, on n'est pas tant nombreux que ça. Ben, on va y aller pour les filles, là, de ce côté-là. Tu sais, on peut le voir, ça faisait 36 ans, là, que le record n'avait pas été battu. Puis, avec mon 11.08 aussi, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas une femme qui avait couru en bas des 11.10. Au Canada. Donc, c'est tout à fait vrai là, qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les dernières années.
À quel âge, Audrey, as-tu choisi de l'athlétisme et particulièrement le sprint?
J'ai commencé à 10 ans l'athlétisme, puis j'ai vraiment, je me suis vraiment concentrée sur l'athlétisme en 2015, donc à l'âge de 16 ans, parce que je faisais aussi du soccer de haut niveau. Puis j'ai décidé de prendre la voie là, de l'athlétisme à cette année-là.
Et à quel moment tu t'es spécialisée sur le courte distance et de miser sur tes capacités dans le sprint?
J'ai toujours fait des épreuves de sprint. Par contre, je faisais aussi du cross-country tout pendant mon jeune âge. Là, même au secondaire, j'ai fait du 800 mètres, du 400 mètres, du lancer du poids, qui n'était pas ma force, bien entendu. toutes les épreuves combinées. Donc, tu sais, j'ai touché à beaucoup d'épreuves, ce qui est un peu la base aussi, puis qui est très intéressant quand on est jeune, là, de faire un peu de tout pour autant développer toutes les habiletés du sport, la motricité, tout ça. Mais c'est vraiment, ça a toujours été dans les 150, 60 mètres, quand j'étais plus jeune, mais c'est ces distances-là qu'on court. Ça a toujours été dans mes épreuves favorites. Donc, ça c'est juste, naturellement, les autres épreuves sont juste disparues année après année. Quand je faisais aussi du son hauteur. Donc, on a fait des choix. Donc, c'est juste été graduellement, OK, on va juste garder les épreuves plus de sprint et de saut en longueur. Puis, c'est ça.
Et la flamme initiale, je suis toujours un peu fasciné de ça, surtout dans les sports olympiques. Là, est-ce que dans la famille, ça courait, vous étiez plus dans l'athlétisme que dans les sports collectifs?
Dans le fond, mes parents ont joué au badminton tous les deux. Ma grand-mère m'a souvent raconté qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition, elle, dans son temps de faire de la course, mais quand elle en avait fait une, elle l'avait gagnée. Puis s'il y avait eu de l'athlétisme, elle en aurait probablement fait, puis elle aurait probablement été très bonne. Mais sinon, mes parents ont toujours été des sportifs, là, depuis qu'ils étaient tout jeunes. Ils ont toujours fait du sport, ils en font encore. Alors, j'ai aussi dans ma famille, ça touche à tous les sports. Donc, je dirais que c'est un peu dans la génétique d'aimer le sport. Puis, au niveau plus du sprint, c'est juste ça l'a donné comme ça, là.
Je plonge dans le sprint, puis là, dans le présent, en 2024, quelques jours après le record que tu viens d'établir, donc en Louisiane, un 10.96. Trois semaines auparavant, tu avais couru un 2023, pardon, tu avais couru un 11.23, mais trois semaines auparavant, tu avais couru un 11.08. Comment, c'est quoi le nombre d'heures d'efforts d'entraînement, puis il n'y a pas de garantie que tu vas courir aussi vite la prochaine fois, mais pour gagner chaque fraction de seconde, qu'est-ce que ça représente, Audrey?
Ben, on s'entend. C'est un sprint, c'est sur 100 mètres, donc c'est pas une très longue distance. Donc, c'est quand même assez avec précision qu'on doit exécuter nos trucs. c'est juste de continuer à travailler, de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on voit que ça fonctionne bien là dans l'entraînement puis tout ça. Mon coach gérant a trouvé la clé. Donc c'est juste de continuer à maintenir ce qu'on fait, de continuer à essayer d'améliorer les éléments techniques qui sont améliorés qu'on a vu dans la course par exemple. Puis on est en début de saison, donc on n'est pas en train de faire notre pic actuellement. Donc le pic est planifié là. T'sais, oui, on aurait dû un petit peu l'entraînement pour les compétitions là, mais on va recommencer à s'entraîner au mois de mai pour un bloc de 3 semaines. Donc l'objectif c'est de recommencer à faire un peu plus de volume après le circuit de compétition qu'on avait aux États-Unis puis au Bahamas là, qui s'en vient. Après ça, on va continuer à aller faire plus d'entraînement. Donc logiquement là, c'est vraiment au championnat canadien où est-ce qu'on est supposé être à notre maximum là dans notre groupe d'entraînement. Donc encore place à l'amélioration, t'as encore place à pouvoir courir plus vite.
Ben c'est le fun, ça doit être stimulant. Je sens, je sais pas, il y a un petit quelque chose là, qui est intangible, qui ressort. Je te vois pas le visage, mais t'as l'intention de courir plus vite. T'as ton standard olympique, mais si je comprends bien, t'as pas la garantie de participer aux Olympiques. Qu'est-ce qui te manque pour cette confirmation-là? Est-ce que ce sont les championnats canadiens qui vont t'offrir l'opportunité de cocher le check?
Dans le fond, c'est que... Si il y a pas rien qui change, je vais aux Jeux Olympiques. C'est simplement que s'il y avait 4 personnes dans l'équipe canadienne qui pouvaient, des Canadiennes qui faisaient le standard également, là, c'est là que ça pourrait venir changer les cartes parce que là, ça serait plus discrétionnaire, ça pourrait dépendre des temps, ça pourrait dépendre des résultats au championnat canadien. Par contre, si rien ne change, peu importe mon rang au championnat canadien, je vais aller aux Jeux Olympiques parce que j'ai le standard. Donc, ça va vraiment dans cette ordre-là. Puis c'est juste parce qu'ils peuvent pas confirmer maintenant, parce que si jamais on était 5 filles au Canada à faire le standard, puis à courir, à se battre encore plus avec les meilleurs, c'est aller dans les 10 secondes, si on pense dans ce scénario-là. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent pas confirmer maintenant. Par exemple, en fin de semaine, il y a eu la marche athlétique, il y avait une compétition, là, je pense, si je me souviens bien, puis je dis bien les bonnes informations, c'était la sélection olympique. Donc, eux, ils le savent en avance parce que c'est pas tout le temps qu'on fait des grandes distances de marche qui sont organisées. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là. C'est comme le marathon. La sélection olympique, elle est plus tôt qu'au championnat canadien. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'ils peuvent pas dire, ah oui, on y va maintenant.
Tu as pris le deuxième rang de cette course où tu as établi le nouveau record canadien, le 10,96. Tu courais derrière, ou en tout cas aux côtés, là, à peine une fraction de seconde derrière, de Alea Hobbs, elle qui enregistrait un 10,88. Tu t'attendais à une bonne performance. Est-ce que le fait de courir avec quelqu'un de rapide, il y a un effet d'entraînement psychologique ou autre? Tu sais, comme tu sais que tu cours avec une des plus rapides sur 60 mètres au monde, une fille qui avait fini deuxième au championnat du monde en 2022, y a-tu de quoi qui se passe? Y a un déclic qui fait que ça va t'amener à être plus rapide?
C'est certain. C'est de courir contre des gens, c'est ça qui aussi va nous challenger sur la piste. Donc, quand on court toute seule, moi, je suis quand même rendue... Je ne vais pas vous cacher, je suis quand même rendue bonne avec ça parce qu'à l'intérieur aussi, j'ai fait beaucoup de compétitions où est-ce que j'étais plus en avant de la tête et de la course. Donc, ça fait en sorte qu'il faut qu'on soit tout challenge dans ces moments-là. Par contre, c'est pas pour rien qu'on court contre des gens. Donc, quand on s'aligne contre des personnes qui courent plus vite que nous, ben ça nous challenge. Puis, dans mon cas, à moi, je trouve que c'est vraiment le cas là, ça me pousse à aller plus vite parce qu'ils sont là, puis c'est comme un objectif de vouloir rattraper la personne. Quand on est seul, on sait pas où nécessairement on se situe, puis c'est quoi le temps à quoi le temps peut ressembler. Parce que Alia Hobbs, dans ses temps, elle, c'est souvent dans les 10 quelque chose. Donc, elle est régulièrement, dans les années précédentes, elle a régulièrement été dans les 10 secondes. Ce qui fait en sorte que quand j'étais près d'elle, j'étais comme, OK, ben je pense que, tu sais, ça peut être dans les 10 secondes ce temps-là, parce que j'étais quand même assez près, puis les autres filles n'étaient pas devant moi.
Est-ce que ça te fait rêver, sans trop te t'amener dans le futur, là? Tu sais, veux pas. Moi, en tout cas, là, je prends des raccourcis vite, je regarde ton chrono, je regarde le sien, je regarde le record du monde. Je me dis, wow, attachez votre tuque, Audrey le Duc s'en vient, là.
Le record du monde, ça fait je pense pas que ce serait pour cette année. Je veux pas mettre de limite, mais on s'entend que c'est quasiment une seconde là, de différence que ce serait de mon temps de l'année passée. Là, parce qu'on a dit 11-23, mais dans vos dernières heures, je pense que c'est le bon temps. Là, puis je sais qu'il est sorti dans un article ce temps-là, mais j'ai couru 11-30 là, au championnat canadien avec un vent illégal, par contre. Puis, dans mes souvenirs, c'est mon meilleur temps de la saison. Là. Mais ça serait quand même vraiment un gros gap, je dirais, les championnats du monde. Mais si on parle d'une finale olympique, je pense que c'est plus réalisable là, que... Mais je vais pas mettre de limites. Je vois qu'on peut rêver, mais je suis pas sûre que... Ce serait cette année, cet objectif.
En tout cas, on dirait que tu as du fun avec ça. Audrey Leduc, en entrevue avec nous, nouvelle détentrice du record du 100 mètres canadien. On sent ton sourire dans la voix, fait que ça te rend heureuse très certainement de faire de l'athlétisme au plus haut niveau.
Oui, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de... En fait, je vais être honnête, là, dans les dernières années, où c'est le fun, mais c'est quand on atteint des performances comme ça, quand on atteint un certain autre niveau, ça rend ça encore plus le fun. Puis ça, j'allais vraiment découvert cet hiver où est-ce que j'avais vraiment... J'étais moins stressée puis plus excitée d'aller courir puis d'aller voir qu'est-ce que j'étais capable de faire sur la piste. Puis c'est vraiment... J'ai gardé cette énergie-là puis c'est cette émotion-là avant d'embarquer sur la piste à l'extérieur également. Donc, c'est pas vraiment le stress qui embarque, c'est plus l'excitement de pouvoir voir qu'est-ce que je suis capable de faire à nouveau. Donc, ça, c'est vraiment le fun. D'avoir cette sensation-là d'embarquer sur la piste, là.
Oui, surtout que ça prend un mental d'acier, puis une persévérance, puis une patience, parce que, tu sais, quand tu vas retrancher des dixièmes de seconde, tu sais, que ça prend, tu sais, comme tu le disais, là, tu sais, ça serait quasiment inimaginable, là, entre ton temps de l'an passé, puis les Olympiques, tu sais, l'exemple de penser un record, là, qui dépasse l'entendement, fait que, hey, ça prend comme, dans quel état d'esprit tu te mets pour justement avoir cette patience-là d'avancer tranquillement vers le sommet, mais à coup de fraction de seconde?
Ben, je dirais que c'est un travail de plusieurs années. Ça a commencé avec mon premier entraîneur à Gatineau, puis ça s'est poursuivi avec mon entraîneur actuel. C'est juste un processus qu'il faut pas sauter d'étape, puis ça, c'est vraiment important, que ce soit quand on est plus jeune, qu'on veut faire les championnats du monde junior, de jeunesse, peu importe. C'est vraiment, tu sais, c'est un processus, c'est des étapes par étapes, puis c'est pas de sauter d'étape. Donc, ça, cette patience-là que j'ai actuellement, bien, je l'ai acquis au cours de tout mon parcours, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis l'athlète que je suis, puis que je suis capable de dire, ben c'est pas grave, ça doit arriver quand que c'est supposé arriver. Puis, on fait juste continuer à travailler sur ce qu'on travaille, puis c'est d'accumuler ces changements-là au fur et à mesure, puis ces modifications-là au niveau technique, au niveau entraînement, peu importe, puis qui vont mener au résultat en bout de ligne sur la piste.
Au 100 mètres, traditionnellement, puis peut-être que ça évolue, puis on le constatera aux prochains Jeux olympiques, mais j'ai toujours eu l'impression que l'entraînement, bon, je sais que c'est très, très vaste, il y a plusieurs aspects à l'entraînement, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a compris que plus ta musculature était comment dirais-je, tu sais, des corps d'athlètes là, hyper musclés, que ça ajoutait au chronomètre. Est-ce qu'en sprint féminin, c'est aussi vrai? Est-ce que l'entraînement vous dirige encore vers là pour aller chercher des fractions de seconde?
Dans mon cas, pas nécessairement. Je pense que ça peut varier aussi. On a plusieurs types d'athlètes. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus minces puis qui sont plus au niveau des tendons qui vont courir. Il y en a d'autres qui vont courir avec... Il y en a qui ont des grosses cuisses, puis c'est avec ça qu'ils vont courir plus vite. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la physionomie puis la physiologie de l'athlète en question. Puis c'est ça qui va faire qu'on a des bons entraîneurs. C'est quand on est capable de modifier les entraînements selon comment que l'athlète est formé. Puis dans mon cas, c'est pas la grosse musculature, c'est pour faut oui avoir des muscles parce qu'on courra pas si on est pas musclé ou on fait pas de la musculation parce que on s'entend que c'est ça qui nous fait avancer. Mais dans mon cas, c'est mon entraîneur du souvent qui fait avec mes tendons, puis c'est ça qui fait que rend mon côté plus élastique. Donc c'est un côté qui est plus c'est quand on voit que ça court vite, là, c'est vraiment rapide. Je sais pas comment le décrire, là, mais c'est André de Grasse aussi, il y a ce côté-là, quand on le voit, là, des fois il va partir puis il va ouvrir. Mais c'est un peu ce côté élastique-là, tendineux, qui vient créer cet effet-là sur la piste. Donc, c'est peut-être un peu différent au niveau entraînement et au niveau des muscles. Donc, c'est peut-être pour cette raison-là que moi, je suis moins musclée, tandis que d'autres athlètes, ils vont vraiment y aller avec plus les muscles parce que c'est ça qui vont les faire courir plus rapidement.
C'est une très belle explication, puis je la comprends. Puis on a le vidéo puis l'audio de ton 100 mètres où tu as établi ton record. Bon, les gens ne verront rien, mais juste pour nous mettre dans l'ambiance. Et en ce sens que ce que les gens ne verront pas, tiens, on va entendre le coup de départ. Et c'est parti, c'est pas long, 10 secondes.
Quickly, Aaliyah Hobbs, Tiger Olympians. Aaliyah Hobbs, Tiger Olympians. Audrey Leduc, Athletics Canada.
Audrey Leduc, qui termine au deuxième. Alors, t'arrives-tu devant tes amis pour... Non, t'as pas le temps, ça vient d'arriver, mais vous avez devant vous la deuxième femme la plus rapide au monde en 2024. Ça se glisse bien d'une conversation, ça, Audrey?
Oui, ça se glisse bien.
Mais, sais-tu ce que j'ai remarqué? C'est pour ça que j'aime la comparaison avec DeGrasse. C'est que au début... tu te démarques pas quand on regarde juste l'image, puis à un moment donné, toi, on dirait que la transmission clenche en grande vitesse, toi là, puis whoop, j'ai l'impression que si t'avais 10 mètres de plus, tu finissais première. Je sais pas si c'est l'illusion d'optique, là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Mais je suis pas un analyste ni un spécialiste, mais c'est-tu de même que tu te sentais que, boum, quand t'es, on dirait que quand t'es parti en grande vitesse, il n'y avait rien qui était pour t'arrêter là.
Oui, je suis 100% d'accord à ce niveau-là. Par contre, je sais pas si... Je pense que oui, j'aurais été capable d'aller passer, mais en même temps, j'étais en train de me battre contre moi-même à ce moment-là pour pas perdre ma position de course. Parce que à ces vitesses